Pictura Poésie présente un nouvel épisode de son podcast « Chambre avec vue ».
Je sais bien qu'il est difficile de faire admettre qu'une peinture puisse être à la fois de la très grande peinture en restant joyeuse. Référence, Renoir, Un rêve d'harmonie, par Peter H. Fest Tachan, édition 1993.
Bienvenue à toutes et à tous pour notre discussion autour d'une œuvre absolument iconique, une vraie capture de l'esprit parisien, le Bal du Moulin de la Galette d'Auguste Renoir.
Bonjour, oui, un tableau emblématique en effet.
Alors pour en parler aujourd'hui, on s'est plongé dans pas mal d'analyses, de critiques, des textes qui explorent vraiment ce chef-d'œuvre sous toutes ses coutures.
C'est ça, pour essayer d'en saisir toute la richesse.
Pour resituer un peu, on est en 1876, Renoir nous emmène à Montmartre, c'est ça ? Une guinguette, un dimanche après-midi.
Exactement, le Moulin de la Galette, un lieu très populaire à l'époque, où les gens venaient danser, se retrouver.
Et le tableau y respire la joie, la lumière, le mouvement, c'est plein de vie.
Une véritable célébration. C'est une excellente approche, parce que ce tableau, il est vraiment central. Pas juste pour Renoir, mais pour tout l'impressionnisme. Il représente parfaitement cette volonté de peindre la vie moderne, ce qui était assez révolutionnaire.
La vie moderne.
Oui, et il montre aussi les innovations techniques de ces artistes qui voulaient rompre avec l'académisme. C'est une sorte de fenêtre sur le Paris de l'époque, un Paris qui changeait beaucoup.
D'accord. Commençons par le sujet lui-même, ce bal populaire, cette foule qui s'amuse. Les analyses insistent beaucoup sur le côté vivant, presque. On entendrait presque le bruit, non ?
Ah oui, on imagine la musique, les rires. C'est très immersif.
Et les gens ? On voit des jeunes, des artistes peut-être, des étudiants, des ouvrières. C'était un mélange, c'est ça ?
Oui, un mélange social assez typique de ces lieux de loisirs populaires. Et peindre ça, une scène de la vie ordinaire, des loisirs du dimanche, c'était vraiment un choix fort à l'époque. Qu'est-ce que ça nous dit, ce choix ?
Ben justement, qu'est-ce que ça nous dit ?
Eh bien, ça nous dit beaucoup sur l'intention de Renoir et des impressionnistes en général. Choisir le Moulin de la Galette, c'est tourner le dos aux grands sujets historiques, mythologiques, religieux.
Les sujets nobles de l'Académie.
Voilà, exactement. C'est dire, regardez, la vie de tous les jours, les plaisirs simples des Parisiens, ça aussi c'est digne d'être peint. C'est vraiment ce que Baudelaire appelait la peinture de la vie moderne.
Donc c'est plus qu'une jolie scène, c'est presque une déclaration d'intention.
Un manifeste.
D'une certaine façon, oui. C'est affirmer que la beauté, elle est aussi dans l'instant, dans le fugitif. Renoir, il ne cherche pas à idéaliser ou à donner une leçon de morale.
Non, il observe.
Il observe, voilà. Il capture l'énergie du moment. Il y a une sorte d'authenticité, une vérité sociale aussi dans cette foule mélangée qui profite. C'est une démocratisation du sujet artistique en quelque sorte. D'ailleurs, les sources rappellent que Renoir avait son atelier juste à côté.
Ah oui ?
Et qu'il allait souvent au Moulin. Il peignait même parfois sur place avec ses amis qui posaient pour lui. On retrouve certains de ses proches dans le tableau. On sent cette proximité, cette implication. Et ce qui frappe tout de suite, c'est la lumière. C'est peut-être l'élément le plus incroyable, le plus discuté dans les analyses. Comment il fait ça, Renoir ? Cette lumière qui vibre, qui semble passer à travers les feuilles.
Ah, la lumière ! Oui, oui, là, on est au cœur de l'impressionnisme et du talent de Renoir. Ce n'est pas une lumière unique qui vient d'un seul côté, comme dans la peinture classique.
Non, c'est différent. Il observe comment la lumière naturelle, là, celle d'un après-midi d'été, sous les arbres, sous les acacias, comment elle se fragmente en plein de petites touches de couleurs. Regardez bien le sol, les vêtements.
Oui, ces taches de soleil partout.
Exactement. Et ces taches, elles ne sont pas juste blanches ou jaunes. Il y a du rose, du bleu pâle. C'est fait de plein de couleurs juxtaposées. C'est ça qui donne cette impression de scintillement, de vibration. Les textes parlent de touches de couleurs pures posées les unes à côté des autres.
Tout à fait. La technique, c'est la fragmentation de la touche et l'utilisation de couleurs vives, pures, posées côte à côte. Le mélange, il se fait moins sur la palette.
Que dans notre œil, c'est ça.
Voilà, c'est un mélange optique. Et ça, ça crée une intensité, une vibration lumineuse qu'on n'avait jamais vue avant. C'est une rupture énorme avec l'éclairage d'atelier, souvent très contrôlé, très artificiel, de la peinture académique.
On a presque l'impression de sentir la chaleur.
Oui. Renoir cherche vraiment à saisir la sensation visuelle de la lumière naturelle, qui bouge tout le temps, qui est diffuse. La lumière devient un personnage du tableau, presque. Elle donne tout son dynamisme à la scène.
Et ce dynamisme, il vient aussi de la composition, j'imagine. On lit souvent qu'elle est très vivante, presque comme une photo prise sur le moment. Ce côté instantané, comment il construit ça?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il n'y a pas vraiment de centre unique où le regard doit se poser. On est invité à se balader dans la scène, à regarder partout.
Ouais, c'est vrai.
Et puis, il y a ces fameux personnages coupés sur les bords. Au premier plan, à droite, à gauche.
Ah oui, comme si la scène continuait en dehors du cadre.
Exactement. Ça, c'était très audacieux pour l'époque. Ça donne l'impression qu'on est dans la scène, qu'on vient de tourner la tête et qu'on surprend ce moment. Ça renforce l'idée d'un fragment de vie.
J'ai lu quelque part une comparaison avec la photographie qui commençait à se développer. C'est une influence directe, vous pensez, ou juste une coïncidence d'intérêt?
C'est une bonne question. Et les historiens de l'art en débattent encore. L'influence directe est possible, oui. Les cadrages un peu surprenants de la photo, les instantanés, ça commençait à circuler. Mais ça peut aussi être une convergence. Les peintres, comme Renoir et les photographes, s'intéressaient tous les deux à la même chose. Capturer la vie moderne, l'instant qui passe. Dans tous les cas, cette composition un peu décentrée, avec des lignes qui partent dans plusieurs directions, comme la diagonale des danseurs qui nous emmène vers le fond, ça casse complètement les schémas classiques, beaucoup plus stables, plus organisés.
Et ce style de composition va de pair avec le style de peinture lui-même, j'imagine.
Bien sûr. La touche rapide, visible, dont on parlait pour la lumière, on la retrouve partout. Les formes sont plus suggérées, esquissées, qu'affinement dessinées. Regardez les visages dans la foule au fond.
Oui, c'est juste quelques touches.
Voilà. Quelques touches pour une expression, un regard. Le but, ce n'est pas le détail hyper précis. C'est l'impression générale, l'atmosphère. On est très loin du fini léché, très lisse, que l'Académie appréciait.
Ce qui nous amène naturellement aux couleurs. La palette est décrite comme très chaude, très joyeuse. C'est bleu, c'est rose, c'est jaune. Mais le truc qui revient tout le temps dans les analyses et qui était apparemment une révolution, c'est les ombres. Elles ne sont pas noires.
Ah, les ombres. Oui, absolument. Ça, c'est une des grandes innovations des impressionnistes. Renoir, Monet, Pissarro. Ils regardent vraiment la nature et ils voient que les ombres, ce n'est pas juste du noir ou du gris, une absence de lumière.
Non.
Non. Les ombres sont colorées. Elles sont influencées par la lumière qu'il y a autour, par des reflets des choses. Par exemple, dehors, sous un ciel bleu, les ombres vont avoir des reflets bleus ou violets.
Et Renoir peint donc les ombres en bleu, en violet, c'est ça?
Les textes disent que ça les rend plus lumineuses, ce qui paraît bizarre pour une ombre.
C'est paradoxal, oui, si on pense au clair-obscur classique.
Mais dans la logique impressionniste, utiliser des couleurs, souvent des couleurs complémentaires à celles des zones éclairées, par exemple du violet pour ombrer du jaune, ça crée un contraste de couleurs, pas juste un contraste de clair-obscur.
D'accord. Et ça change quoi concrètement?
Ça change plusieurs choses. D'abord, ça évite d'avoir des zones noires ou grises qui peuvent avoir l'air un peu ternes, un peu plates sur la toile. Ça éteint moins le tableau. Ensuite, ça permet de garder une vibration de couleur partout, même dans les ombres. Et enfin, ça intègre mieux les formes dans l'ambiance lumineuse générale. Les ombres font partie de l'harmonie des couleurs. C'est vraiment une avancée technique majeure qui donne à l'impressionnisme cette sensation unique de plein air, de lumière qui vibre partout.
C'est fou de penser à quel point ces techniques, qui nous semblent presque normales aujourd'hui pour représenter la lumière, étaient radicales à l'époque. Et ça nous mène à la réception du tableau. Aujourd'hui, on va au musée d'Orsay, on admire. Difficile d'imaginer qu'il ait pu être critiqué. Pourtant, les sources sont claires. En 1877, quand il est montré pour la première fois, l'accueil a été compliqué.
C'est le moins qu'on puisse dire. Présenté à la 3e exposition impressionniste, le tableau a vraiment dérouté beaucoup de critiques et une partie du public. Les reproches, c'était les mêmes que d'habitude pour les impressionnistes. On trouvait ça bâclé, pas fini, comme une esquisse.
Barbouillage, j'ai lu ça quelque part.
Oui, barbouillage, impression, au sens péjoratif du terme. Les formes étaient jugées floues, la composition désordre. Et le traitement de la lumière, avec toutes ces taches de couleur, ça paraissait incompréhensible, voire laid. Certains se sont moqués de ces taches violettes sur les visages, sur les vêtements.
C'est incroyable. Le monde à l'envers, parce que c'est justement ça, la touche qui vibre, la lumière décomposée, la compo audacieuse, le sujet moderne qu'on admire aujourd'hui comme la signature de Renoir et de l'impressionnisme dans ce tableau.
Exactement. Mais bon, il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque, hein. L'Académie des Beaux-Arts dominait tout. et on attendait d'un tableau un dessin hyper précis, une surface lisse où on ne voit pas le coup de pinceau, des dégradés parfaits, une composition bien sage et un sujet qui élève l'âme.
Et là, Renoir arrivait avec tout le contraire.
Tout le contraire. Donc, ce que les critiques voyaient comme des défauts, comme de la négligence, c'était en fait le résultat d'une recherche consciente, délibérée, pour montrer le monde différemment, pour traduire une nouvelle façon de voir et de sentir.
Et alors, comment ce tableau est finalement devenu l'icône qu'on connaît ? Ça a pris du temps ?
Oui, ça s'est fait petit à petit, en même temps que l'impressionnisme lui-même gagnait en reconnaissance. Il y a eu des collectionneurs importants qui ont cru en ces artistes très tôt. Gustave Caillebotte, par exemple, qui était aussi peintre impressionniste, a acheté le tableau, enfin, une version un peu plus petite. Renoir en avait fait deux.
Ah, d'accord.
Et Caillebotte l'a ensuite légué à l'État français. Ça, ça a été crucial. Et puis, avec le temps, le regard a changé, celui du public, des musées. On a commencé à voir la fraîcheur, la vitalité, la vérité de cette peinture.
On a compris la démarche, en fait.
On a compris la démarche. Et on a fini par reconnaître sa maîtrise incroyable de la lumière, de la couleur, sa capacité à saisir ce moment de bonheur. Aujourd'hui, oui, c'est un des grands chefs-d'œuvre de l'art occidental, un symbole de la belle époque, de la révolution impressionniste. Il est au musée d'Orsay et c'est une des stars du musée.
Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir du bal du Moulin de la Galette ? Les points essentiels.
Je dirais d'abord cette célébration de la vie moderne parisienne. Cet instantané de joie populaire saisi avec beaucoup d'empathie. C'est très vivant.
Oui, cette capture de l'instant. Et puis, techniquement.
Techniquement, c'est une démonstration éclatante des innovations impressionnistes. La lumière et la couleur avant tout, traitées par touches séparées, juxtaposées. Et bien sûr, cette révolution des ombres colorées qui donne cette impression de plein air, de vibration.
Tout à fait. Et on a aussi parlé de la composition audacieuse qui donne cette impression de spontanéité, comme si on y était. Et puis enfin, c'est le symbole d'une rupture, une œuvre qui a bousculé les habitudes avant de devenir une référence absolue, admirée pour son énergie contagieuse.
C'est ça. Et peut-être, au-delà de l'analyse, il reste cette connexion très forte, très émotionnelle, que les gens ressentent dans ce tableau. Pourquoi cette scène, peinte il y a presque 150 ans, nous touche encore autant aujourd'hui ? Qu'est-ce qui résonne si fort dans cette image de joie simple, de plaisir partagé ?
C'est une excellente question pour finir. Qu'est-ce qui, dans nos vies d'aujourd'hui, dans nos moments de fête, de rencontre, pourrait être peint avec cette même fraîcheur, cette capacité à saisir l'essence d'un moment ? Quel serait l'équivalent contemporain de cette guinguette sous le soleil ?
Exactement. C'est peut-être ça l'universalité de l'œuvre. Nous rappeler la valeur de ces moments de grâce toute simple. Et nous inviter peut-être à regarder notre propre monde, notre propre quotidien, avec un œil qui cherche à en saisir la poésie, même fugace, comme Renoir l'a fait pour son temps.
Une très belle réflexion pour conclure notre plongée dans ce chef-d'œuvre plein de vie. Merci beaucoup pour tous ces éclairages passionnants.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Toujours ce besoin de chercher de la pensée dans la peinture. Moi, je me contente de jouir. Référence, Renoir, Un rêve d'harmonie, par Peter H. Fest Tachant, édition 1993.